Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous. Vous êtes bel et bien sur le micro à l'écoute de la CFA 88.3 sur l'émission On jase politique. Aujourd'hui, nous allons parler du Parti libéral du Québec. Attendez, excusez-moi, je pense qu'il y a un souci. Excusez-moi, petit problème technique, nous reprenons l'émission sur le Parti libéral du Québec. Je comptais dédier cette émission hebdomadaire sur ce sujet-là pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons d'actualité. Comme nous le savons, le Parti libéral du Québec est au cœur de plusieurs crises, d'une crise particulière, surtout à l'approche des élections de 2026, d'ici moins d'un an. Mais je voulais y parler aussi parce que c'est un sujet dont on entend peut-être moins parler en général, le PLQ, parce que c'est peut-être un rapport personnel que j'ai à la politique, mais en tant que Français présent ici depuis plusieurs années, j'ai souvent eu j'ai eu l'occasion de me renseigner beaucoup sur la politique québécoise et d'en apprendre beaucoup sur le Parti québécois et sur Québec solidaire. Mais moi, sur d'autres partis comme le PLQ, c'est un parti dont j'entends peut-être un peu moins parler dans l'actualité, ou peut-être de ce que j'ai cru comprendre aussi, comme vous le dira peut-être mon ami Simon, peut-être que c'est un parti qui était moins entendu aussi, qui était moins audible, mais dont les gens entendent moins parler aussi que le PQ ou QS d'habitude. Enfin bref, nous allons aborder le sujet. Nous allons notamment parler de la période de crise actuelle et surtout de la période de crise actuelle, mais nous allons parler un peu de son histoire aussi et des perspectives éventuelles dans le cadre des prochaines élections. Je vais d'abord laisser mes invités se présenter, donc Simon.
Oui, bonjour, me revoilà. Moi, c'est Simon Guillette. J'ai un baccalauréat en études politiques appliquées.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Aurélien. De retour à chaque épisode ici, j'ai fait un bac en économie à Sherbrooke et je fais une maîtrise en politique à Sherbrooke.
Merci beaucoup. Je pensais avant tout parler de la crise présente, en fait, qui est sur de la crise présente, mais surtout du PLQ actuel, en fait. Parce que le PLQ, récemment, on le sait, est dirigé par Pablo Rodriguez depuis quelques mois. Donc Pablo Rodriguez est un transfuge du Parti libéral fédéral, en fait. Il était ancien ministre sous Justin Trudeau. Et certains libéraux espéraient que, avec l'arrivée de Pablo Rodriguez, on assisterait à une sorte de remontada, en fait. Dans le sens, le Parti libéral n'était pas très bien en point en termes de vote, d'intention de vote et de siège, qui a beaucoup chuté, comme le PQ récemment aussi, mais qui lui aussi est donné... à qui aussi on donne une remontée. Donc certains espéraient une remontada, surtout grâce à la notoriété de Pablo Rodriguez. Mais d'un autre côté, d'autres voient de l'opportunisme, parce que Pablo Rodriguez a quitté le gouvernement au moment où où le Parti libéral fédéral était au plus bas dans les sondages. Bon, ce qui ne s'est pas produit, mais il est parti à ce moment-là pour un petit peu se recycler petit à petit au provincial. Et en plus, un certain nombre de polémiques qui sont venues avec la chefferie de Pablo Rodriguez, qui tournent notamment autour du fait que Rodriguez aurait acheté des votes et ce qui aurait été à l'origine de l'exclusion récente de Mauro Risky du caucus libéral à l'Assemblée nationale. Bref, ma première question, selon vous, à quoi ressemble le PLQ de Pablo Rodriguez?
Oui, dans le fond, le parti de Pablo Rodriguez ressemble quand même beaucoup au Parti libéral qu'on avait déjà connu dans les décennies précédentes. Seulement, ce qui distingue Pablo Rodriguez par rapport aux autres... gouvernements libéraux qu'on a eu dans les dernières années, c'est son ambiguïté sur des questions qui jadis faisaient l'unanimité au sein du Parti libéral. C'est pas un secret pour personne. Les sondages légers qui ont été dévoilés tout récemment ont montré que le Parti libéral a perdu 5 points de pourcentage par rapport à la dernière projection. Puis, les positions traditionnelles du Parti libéral sont plus difficiles à défendre aujourd'hui. par exemple, les positions sur l'immigration, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, Pablo Rodriguez avait dit, je me rappelle plus dans quel média, qu'on aurait pu doubler le nombre d'immigrants au Québec et quand même y arriver. Puis plus tard, il avait dit être ouvert à baisser les seuils d'immigration, ce qui rentre en rupture avec les libéraux de Philippe Couillard et aussi avec le Parti libéral de Jean Charest.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que Simon dit. Je pense qu'il y a peut-être un petit effet électoraliste qui fait qu'en faveur pour l'immigration, contre l'immigration. Je pense que le PLQ de... C'était qui la personne qui était face à Couillard au deuxième tour de leur primaire?
Au deuxième tour de leur primaire.
Parce que M. Rodriguez, il est là depuis moins d'un an tout de même, c'est peu de temps. Il a été face à une autre personne qui était... j'ai oublié son nom.
C'était pas Charles Millard.
Voilà, je pense
Charles
que
Millard,
c'était
oui,
ça.
Et
moi, ce que j'avais vu, parce que là, je vais pas être l'expert cette journée-ci sur ce sujet-là, plus comme un Français qui a étudié un peu le sujet parce qu'il est en politique, mais c'est, j'ai compris que Charles Millard, il avait l'air un peu plus keb. Un peu plus régionaliste, au moins, ou peut-être légèrement autonomiste. Alors que Rodriguez, pour moi, je pense qu'il incarnait mieux la base du PLQ, qui est plus montréalaise, anglophone et tout ça. Donc je pense que la version de Rodriguez, est-ce que ce n'est pas un petit peu la même version du PLQ de Dominique Anglade? C'était ça son nom, la candidate aux dernières élections. Qui tout de même a donné un virage un peu plus à gauche socialement, progressiste, et aussi où il y avait moins cet aspect québécois qu'on pouvait avoir sous Jean Chrétien ou même peut-être Denis Coderre, même si beaucoup de souverainistes, je pense, les attaqueraient tout de même. Mais tout de même, comparé à Rodriguez et Anglade, je me demande s'il n'y a tout de même pas un virage plus anglophone, en plus étant tous les deux d'issue d'immigration aussi. Voilà, c'est ça.
Mais effectivement, par rapport à ce que vous dites, une chose à laquelle je pensais, Simon, de ce que tu disais, c'est effectivement, il y a comme une sorte de virage, enfin, pas anti-immigration, mais peut-être un peu plus, qui cherche un peu plus à limiter l'immigration. Et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, en fait, dans la plupart des partis au Québec, plus qu'avant. Donc, c'est peut-être qu'ils partagent une sorte de consensus d'une certaine manière, parce que. Québec solidaire, c'est sûr que Québec solidaire, ils vont rester beaucoup plus pro-immigration, mais même eux, tu vois, tu comprends qu'ils mettent eux-mêmes certaines limites, comme par exemple, c'est une longue histoire, mais qu'eux, ça avait eux-mêmes critiqué, c'était quoi le projet 100 millions en 2023
L'initiative du siècle.
Oh, l'initiative du siècle, merci, qui prévoyait d'augmenter la population à 100 millions d'ici la fin du siècle avec l'immigration.
Après, donc... ça, c'est plus du libéral fédéral aussi. Je doute que les... Parce que tout de même, moi, ce que j'avais compris avec mes cours en politique et même en voyant un peu, c'est que le Parti libéral québécois est tout de même plus à droite que le Parti libéral fédéral, économiquement et aussi sur les aspects sociaux. Ils restent progressistes. Ils ont fait un virage plus progressiste avec Dominique Anglade, mais ils sont un peu plus à droite que le fédéral. Et je ne pense pas qu'ils auraient été complètement en faveur de l'initiative du siècle. Personnellement, après je ne sais pas qu'est-ce que les chefs du parti ont dit à l'époque ou de représentants.
Mais effectivement, et ça me revient aussi à ce que tu disais juste avant aussi, c'est sur l'identité du PLQ, surtout sur Charles Millard qui tu disais était un peu plus pro-Québ d'une certaine manière que Pablo Rodriguez. C'est d'ailleurs un aspect qu'on va aborder en deuxième partie plus tard sur l'histoire du PLQ tel quel, sur son attachement à l'identité québécoise. Mais là, je voulais surtout parler un peu plus des polémiques, en fait, des polémiques actuelles. Comme je disais, sur le fait que Pablo Rodriguez aurait acheté certains votes, donc acheté, c'est un grand mot, c'est sûr, mais plus de manière indirecte. Comme par exemple, il aurait donné comme des... Son équipe aurait donné des brownies, entre guillemets, qui seraient comme des bons, enfin, simplement des sommes d'argent contre des votes. Ou c'est aussi, j'ai oublié son nom, mais c'était un donateur... qui a payé d'autres personnes pour donner parce que lui-même ne pouvait pas donner plus de $500. Et ainsi, il a demandé à des amis à lui de donner $500 aussi pour, et en les remboursant après. Et bah, là-dessus, beaucoup voient des magouilles et de l'achat de votes. Et il y a aussi l'affaire selon laquelle Marois Risky a été viré donc, du caucus libéral récemment. Et donc, cette décision se base sur le fait que. Se justifie par le fait que Marois Risky avait renvoyé une collaboratrice, mais sans raison officielle d'une certaine manière. Et selon certains journalistes, notamment au sein du Journal de Montréal, cette décision pourrait être liée à cette affaire de brownie ou d'achat de vote, en fait, qui aurait comme un désaccord lié à cette affaire entre les deux, donc ce qui n'est pas sans alimenter l'affaire et ce qui ne va pas améliorer les choses. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou des choses qui vous ont frappé particulièrement?
Oui, dans le fond, ce que nous voyons, c'est le Parti libéral, c'est pas la première fois dans 10 ou 15 dernières années qu'ils sont pris dans des histoires de scandales de corruption qui n'ont pas complètement été démentis. On peut penser à la commission Bastarache en lien avec la nomination des juges dans les années 2000, ou encore à la commission Charbonneau où il y avait des contrats publics qui auraient été donnés à des compagnies de construction en échange de dons aux partis politiques. Et c'est des scandales qui concernaient notamment le parti de Jean Charest à l'époque. Puis aujourd'hui, ce que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait des prête-noms, donné le 500$ au Parti libéral.
Merci, c'est le terme que je cherchais.
Qui sont reliés au Parti libéral du Canada, des anciens collègues de Pablo Rodriguez. Comme quoi le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada sont peut-être en train de se relier à mesure avec le retour d'un acteur de politique fédérale au sein du PLQ, parce qu'il faut se rappeler, Jean Charest, il était chez les conservateurs avant d'immigrer chez les libéraux. Puis, là, ce qui arrive, c'est qu'on rentre en rupture avec une époque où le Parti libéral du Québec et du Canada s'étaient séparés, puisque jadis, les deux partis étaient la souche d'une même organisation, et dans les années 60, le Parti libéral de Jean Lesage a dit que c'était terminé. Puis là, avec ces histoires de corruption, on est en train de remettre ça en lumière, l'influence fédérale sur le provincial, pour le Parti libéral du moins.
Parfait, merci. Avais-tu quelque chose à ajouter, Aurélien, ou
Pas trop. C'est sûr que je trouve que le Parti libéral québécois ont vraiment eu un sale temps récemment, parce que je me souviens quand il y avait les nouvelles qui tombaient sur le premier souci, la première affaire, le premier scandale, c'était d'abord l'élection. Oui, c'est ça, les pots de vin, les $500 par message si tu votes pour Rodriguez et tout ça. Et ensuite, quelques jours après, il y a Madame Maria, quel est son nom de famille ?
Marois Risky.
Marois Risky, c'est ça, Marois Risky. Ensuite, qui est limogé Manu Militari parce qu'il y a pas prise illégale d'intérêt, mais disons qu'il y avait des tensions entre les membres du parti et surtout elle qui a fait un move avec un. Que Rodriguez n'avait pas du tout aimé, alors que bon, voilà, c'était Rodriguez a dégagé Manu Militari, une personne proche. Donc, c'est vraiment deux scandales back-à-back en à peine une semaine, mais vraiment, c'était c'est même en France, c'est assez rare d'avoir deux gros scandales dans le même parti comme ça.
Bah, apparemment, donc, selon certains, ce serait lié à un seul et même scandale, même.
Voilà, c'est ça, c'est possible. Donc, actuellement, je pense qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites. Il y a une enquête à l'intérieur du parti qui est en train d'être faite. Mais si, en effet, à la fin de l'enquête, il s'avère que M. Pablo Rodriguez et ses alliés donner de l'argent pour des votes, parce que c'est vrai que le résultat était assez serré avec Millard. Je ne sais plus c'était quoi la différence, mais je pense que c'était du 55-45.
Ouais, c'est ça, 52-48.
Voilà, c'était tout.
Enfin, bon, après, il y avait d'autres candidats aussi, mais qui avaient moins de nombre de voix. Mais comme tu disais, c'est vrai que Millard était extrêmement populaire. Enfin,
ouais.
C'est surtout, j'ai entendu par des sources un petit peu secondaires, quoi, mais que parmi les jeunes libéraux et plein de choses, le plus populaire, c'était clairement Millard. C'était vraiment lui qui avait le momentum.
Moi, j'ai une source à l'intérieur du parti. Bien sûr, je ne vais pas dire son nom. C'est une personne très sympa. Et lui, c'est un des représentants des jeunes du PLQ qui, lui, était pour Millard. Il y en a d'autres aussi, ils étaient plusieurs pour Millard. C'était un jeune et il me disait qu'en effet, beaucoup de jeunes au sein du PLQ sont en faveur d'un seul davantage de Millard. Ceux qui sont peut-être plus en faveur de Rodriguez, c'était les personnes plus âgées et quelques jeunes qui venaient de Montréal ou la région de Montréal. Mais tous ceux qui étaient en région, à Québec, etc., c'était Millard. C'est ça. Mais c'est que c'est vraiment une crise assez grosse à l'intérieur du parti. Et en avoir deux back-à-back, c'est énorme. Et s'il s'avère qu'en effet, après les études, les enquêtes, qu'il est vraiment coupable, ça peut être terrible. Et je pense que là, ils sont déjà en perte dans les sondages, alors qu'ils devraient être alors plus haut, franchement. Les Québécois... Bah après, je ne sais pas si ça, on va en parler plus tard dans l'émission, mais les Québécois... sont majoritairement pas en faveur de la souveraineté dans les sondages. Il y a une remontée du mouvement souverainiste, mais c'est pas encore du 40-45%, mais on se rapproche du 40%. Le PQ, par contre, est très fort, mais la CAQ s'écroule, donc normalement, ça devrait profiter le PLQ. Le PLQ monte, mais il monte pas à un niveau qui est aussi conséquent que ça, parce que la CAQ est en perte énorme, Québec solidaire est en grosse perte, les Québécois sont pas majoritairement pas en faveur pour la souveraineté, donc techniquement, le PLQ devrait faire du au moins 30% dans les sondages, au moins du 25%. Et là, ils dégringolent. Donc, ils auraient pu faire, s'il y a les élections demain, genre, ok, avant les scandales, donc disons en fin septembre ou en début octobre, si on arrive aux élections là, le PLQ aurait pu faire 25% de sièges et au moins 35 députés, 40 députés, easy, et même peut-être choper quelques votes du PQ et faire que le PQ même peut-être n'atteint même pas la majorité ou gagne la majorité parlementaire mais de très peu. Et là, bam, il pouvait atteindre quelque chose de grand, les deux scandales, et donc ça revient à zéro. Et dans le dernier sondage, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais dans le dernier sondage de Léger qui est sorti il y a deux jours, le PLQ retombe à 21-20%, qui est techniquement... la popularité du PLQ avant Rodriguez. Donc il arrive au pouvoir, il a construit un momentum qu'il fait pousser à 27%, ce qui est tout de même grand. À un moment donné, ils étaient juste à 4-5% de différence avec le PQ. Le PQ, à un moment donné, était à 32-33, eux, ils étaient à 27-28, c'est proche. Et là, bam, ça se réécroule et ça revient au niveau... Ça s'écroule et ça revient au niveau d'avant. Donc toute la construction, tout le momentum, c'est cassé, c'est fini. Et le fait que... Et ça, c'est ce que le gérant de l'Institut Léger a dit il y a quelques jours. C'est que si c'est un scandale qui dure 2-3 jours, ok. Mais là, c'est un scandale qui dure depuis un mois. Et c'est un scandale qui fait révéler un deuxième scandale. Alors là, vraiment, c'est vraiment pas une aubaine pour le parti. Et là, ils perdent tout le momentum et tout ce qu'ils ont construit depuis 3-4 mois avec un nouveau chef. Donc, ça, voilà.
Parfait, merci. Ouais, mais surtout sur ce qu'on disait, ce que tu disais particulièrement sur Charles Millière, sur le fait que il était très, qu'il paraissait un peu plus québécois et qu'effectivement, il y avait quand même une certaine popularité au sein du PLQ. Ça fait surtout penser au fait que j'avais vu moi-même que il était souvent comparé un petit peu comme à Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Québec à deux occasions, dans les 70 puis 80-90, où c'est ça, de Robert Bourassa, qui lui a justement cette même réputation d'être très keb d'une certaine manière, qui aurait beaucoup agi en faveur du Québec, de ses compétences, de l'identité. Et ça venait justement à ma deuxième partie de l'émission, sur un peu l'histoire du PLQ, parce que je voulais parler d'un peu plus de long terme cette fois et pour remettre un peu les événements actuels en perspective et aussi parler d'un peu plus d'histoire aux auditeurs. Parce que le PLQ, donc je résume très 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 rapidement, mais c'est un parti qui existe depuis 1867 et qui depuis a gouverné le Québec à de nombreuses reprises, donc à divers moments, à des moments très éloignés dans le temps, ce qui est quand même remarquable. Un parti qui est resté le même, enfin plus ou moins, et enfin, qui a gardé le même nom aussi. On pense notamment à son rôle, le PLQ, on l'associe notamment à son rôle dans la Révolution tranquille à partir de 1960, l'élection du gouvernement Jean Lesage. Bon, après, voilà, on parle de Révolution tranquille, c'est pas un bloc monolithique ou quoi que ce soit, mais on sait que c'est une période relativement prospère et qui était perçue comme heureuse par la population québécoise à partir de cette époque-là. Et c'est là où le Québec a commencé à changer un petit peu sa logique dans plusieurs choses, à être un peu plus interventionniste au niveau de l'économie, à promouvoir un nationalisme plus civique plutôt que identitaire, tel que promu par Maurice Duplessis juste avant. Donc, ou aussi bah, le fait qu'il y ait des compétences qui étaient récupérées, comme par exemple, certaines compétences qui étaient déjà possédées par le Québec, comme l'éducation, mais ces compétences qui ont été aussi été défendues à l'international. On pense à la fameuse doctrine Gérard Lajoie qui défendait l'occupation de certaines compétences par le Québec à l'international, tant que ça comptait à ses compétences internes, donc l'éducation à l'international aussi. Mais aussi, voilà, c'est des choses qu'on lui associe, c'est la rigueur budgétaire. Donc, il y a l'intervention d'État dont on parle pendant la Révolution tranquille, mais il y a aussi un souci des finances publiques et de ne pas trop en faire au niveau budgétaire, ce qui est un petit peu compliqué. Une chose à laquelle, malheureusement, à laquelle la CAQ n'arrive pas tant en ce moment, mais avec le gros déficit qu'il y a, mais le PLQ est du moins associé beaucoup à cette idée de rigueur budgétaire. Notamment, un exemple récent, c'est tout simplement Philippe Couillard qui a dégagé un surplus de 7 milliards de dollars, me semble. Un bénéfice de 7 milliards de dollars.
Oui, c'était assez conséquent. Hein.
C'est ça, et qui a été dilapidé par Legault, qui lui a dégagé un déficit de 11 milliards, voire plus, parce que le chiffre de 11 milliards, c'est 2024. Donc, et aussi, le PLQ est associé naturellement au fédéralisme, donc qui assume l'appartenance au Canada et qui s'est opposé ainsi au Parti québécois puis aux deux référendums, mais qui a aussi, comme j'ai dit, surtout pour des gens comme Bourassa ou peut-être plus récemment dans l'idée pour Charles Millière, qui sont quand même associés à une certaine défense de l'identité québécoise, notamment, comme j'ai dit, toujours pendant la Révolution tranquille, et qu'il y a quand même un certain nombre de lois qui réaffirment les compétences du Québec et aussi certains aspects plus... plus lié à l'identité. Donc, et aussi, comme on a parlé, et tu en as parlé un petit peu du passif là-dessus, Simon, c'est un parti qui est malheureusement associé à de nombreux scandales, notamment liés à la corruption. Donc, bref, selon vous, quelles sont les principales contributions du PLQ au Québec?
J'aurais tendance à dire la création du modèle québécois en soi. Parce que dans les années 60, il y a eu la Révolution tranquille, il y a beaucoup d'institutions qui ont été créées. Les cégeps, il y a eu la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a été créée sous le gouvernement Lesage par l'initiative aussi de Jacques Parizeau qui était fonctionnaire. Il y a aussi eu la création du ministère de l'Éducation parce qu'avant la Révolution tranquille, l'école était gérée sous la responsabilité des religieux. Dans l'époque de Maurice Duplessis, c'est pour ça qu'on appelait l'époque la Grande Noirceur. Mais avant ça, les libéraux, c'était aussi un parti qui était associé au progressisme social. C'est notamment le Parti libéral d'Adéral Godbout, je pense que j'ai massacré son nom, qui a adopté le droit de vote des femmes en 1940. Puis il s'est battu contre la conscription à l'époque. Finalement, il y en a eu une quand même et il a démissionné. Puis le premier ministre à avoir été souverainiste dans l'histoire du Québec était un libéral. À la fin des années 1800, il y avait un certain Honoré Mercier qui avait pris le pouvoir sous un dégoût profond de ce qui est arrivé au Manitoba avec la pendaison de Louis Riel. Il en a profité pour rallier certains conservateurs déçus pour prendre le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, le Québec a pris un virage un peu plus identitaire. Mais les libéraux d'aujourd'hui, par rapport à ces libéraux-là, t'sais, les libéraux d'avant, ils ont construit beaucoup des institutions que nous connaissons aujourd'hui. Les libéraux d'aujourd'hui les ont un petit peu démantelés. Ou on réduit la place de ces institutions au sein de l'État québécois. Depuis de Robert Bourassa jusqu'à Jean Charest, jusqu'à Philippe Couillard, où il y a des institutions, notamment en santé, qui ont été centralisées. Puis aussi, c'est un parti qui a tenté, malgré lui, de régler certaines questions identitaires, mais à chaque fois qu'ils ont essayé de le faire, ça l'a reviré directement contre eux. Par exemple, Robert Bourassa a tenté une première esquisse d'une loi 101 avant que René Lévesque prenne le pouvoir, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait prendre de travers des deux côtés. Des deux côtés. D'un côté, les plus identitaires étaient contre la loi parce qu'ils trouvaient que ça n'allait pas assez loin. Puis, il y a les autres qui trouvaient que ça allait déjà trop loin. Et malgré l'une des plus grandes majorités politiques de l'histoire du Québec, ils ont pratiquement tout perdu aux élections suivantes à cause de ça. Et Philippe Couillard aussi. Ils ont voulu faire une commission sur le racisme systémique pendant son mandat. Et à partir du moment où l'idée était en vogue, le Parti libéral a commencé à perdre de la popularité et la CAQ en a profité pour prendre le pouvoir.
Merci.
Oui, bah, très très bonne analyse hein, sur ce qu'ils ont pu faire, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Moi j'ai plus une vision d'un Parti libéral, ouais, c'est ça, Bourassa, Jean Lesage aussi, d'une vision du PLQ, un héritage qui était plus conséquent avant les années 2000 qu'après les années 2000, parce que franchement, je pense que Jean Chrétien et Couillard ont... pas Jean Chrétien, d'ailleurs en plus il est de Sherbrooke, diplômé de droit.
Jean Charest.
Voilà, Jean Charest. Bah, Chrétien, c'est libéral, mais fédéral. Mais Jean Charest et Couillard, ils ont laissé un leg, ils ont contribué au Québec. Mais je vois plus la vision du PLQ dans les grandes années, les années 60, les années 80, 70. La nationalisation de l'Hydro-Québec, c'était principalement sous... je pense que c'était sous Jean Lesage.
Oui, c'était sous Jean Lesage avec la pulsion de René Lévesque comme ministre des Ressources naturelles.
C'est ça, exactement. Parce que Lévesque était justement au PLQ à l'époque. Ce qui est vrai, ce que tu te donnes une bonne analyse, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le PLQ, à l'origine, c'était un peu eux, les identitaires québécois. Les régionalistes, les autonomistes, les nationalistes, c'était eux à l'époque. Comme tu as très bien mentionné Honoré Mercier, j'ai toujours trouvé Honoré Mercier intéressant parce que quand elle était Premier ministre du Québec, il était Premier ministre que 4 ans, hein, donc c'est pas très long. Et en plus, c'était quoi, en 1890, quelque chose comme ça, dans cette décennie-là, à la fin du dernier siècle, enfin l'avant-dernier siècle, il avait mené la première politique internationale du Québec. Il avait été accueilli à Paris en grande pompe par... le président, je pense que c'était Félix Faure ou Casimir Perrier. Bref, il a été très très bien accueilli à Paris. Il a fait plusieurs voyages là-bas pour la politique internationale du Québec et donc en Europe, se faire connaître en France, reconnecter un petit peu la France qui a complètement oublié le Québec à cette période-là, pendant tout ce siècle en réalité, grâce à Honoré Mercier. Et aussi c'est lui qui avait un peu... instaurer beaucoup de lignes de chemin de fer, une certaine modernisation des premières lignes de chemin de fer qui fait que ça relie davantage les villes québécoises entre elles. Donc un tissu national un peu plus fort entre les Québécois. Alors le PLQ aussi, ils ont créé la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est le CDPQ. CDPQ, c'est énorme. Le CDPQ, c'est des centaines de milliards de dollars, c'est des investissements massifs, c'est le REM récemment, c'est des investissements dans plein de fonds et tout ça, et ça contribue à l'économie du Québec, et les Québécois aussi en font partie de ça, et ça marche tout de même assez bien. Ce sont eux qui financent partiellement le train à grande vitesse canadien, et plein d'autres projets pharaoniques qui, en réalité, font du bien à la population en général. C'est ça, ils ont contribué aux libertés individuelles et tout cela, liberté publique, modernisation tout de même de l'économie dans certains aspects, libéralisation. Mais je trouve que ils ont plus contribué dans le dernier siècle que depuis les deux anciens premiers ministres PLQ de Jean Charest et de Couillard. Couillard, après, j'exagère rien, mais en tant que Français qui étudie ici, vraiment, on m'a vendu Couillard comme un premier ministre qui était, stable, et surtout, genre, il n'y a pas eu de gros scandales, il n'y a pas eu de gros projets. Après, le REM, c'est lui qui l'a commencé, mais ça a été inauguré sous Legault. Mais ultimement, c'est quelque chose où c'est vraiment un peu un bureaucrate, c'est comme François Hollande. On essaie de passer quelques lois, pas de grandes lois très très connues pour la majorité des Québécois. Je pense que si on va à Montréal ou même à Sherbrooke, qu'est-ce que Couillard a fait? Ils vont peut-être se souvenir d'un truc sur les 4 ans de mandat qu'il a fait, peut-être pour les docteurs ou je sais pas quoi. C'est plus business as usual ce qu'il a fait, et coupé dans des fonds publics. C'est ça. Ce qui a grandement bénéficié au premier mandat de Legault, les magnifiques 7-10 milliards de dollars dans les poches extra du gouvernement.
Parfait, merci. Mais l'idée qui me revient, bah, surtout en jasant, mais une idée que je m'étais déjà un peu faite, c'est naturellement, on oppose souvent le PLQ au PQ. Bah, genre on dit que l'alternance est souvent entre souverainiste et fédéraliste, donc en l'occurrence le PQ et le PLQ, ce qui distingue de pas mal de coins dans le monde où c'est plus, on va plus parler d'une alternance entre gauche et droite. Donc ça, c'est comme une dichotomie qui est typiquement québécoise, si j'ose dire. Donc on oppose souvent les deux. Mais avec le recul, j'ai l'impression que pourtant, il y a comme plus de continuité qu'on ne le croit entre les deux. Surtout bah, par rapport à ce qu'on dit depuis tantôt sur le fait que le PLQ eux-mêmes ont fait des politiques bah, très favorables au Québec d'une certaine manière, enfin qui objectivement ont quand même enrichi pas mal la province, mais aussi qui l'ont permis d'être parfois plus compétitive, mais aussi d'affirmation identitaire à certains égards, y compris sous Jean Charest par exemple. Là-dessus, bah, y a comme plus de continuité qu'on le croit avec le PQ. Et je me rappelle par exemple, c'était une entrevue entre. C'était un balado, c'était politiquement parlant, où c'était des deux gars qui avaient milité chez les libéraux, justement, qui interviewaient Pascal Bérubé et qui lui disaient « Ouais, moi, je me rends compte, en fait, pour avoir milité chez les libéraux, entre nous et vous, en fait, il y a plus de continuité qu'on ne le croit. » Et là, Pascal Bérubé, il disait « Mais oui, effectivement, plein de choses, comme l'amour du Québec, surtout, et puis plein de choses de même aussi. Donc, bah, je propose qu'on explore un petit peu plus ces aspects après la pause. » Bref, nous reprenons l'émission pour la terminer, tout simplement. Et j'allais notamment ce que je demandais, c'était les continuités globales et qu'on percevait peut-être pas instinctivement entre le PLQ et le PQ tout au long de l'histoire québécoise. Simon, tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus?
Dans le fond, les deux partis ont toujours essayé de défendre le Québec dans sa position géographique spécifique, c'est-à-dire dans le Canada. Par exemple, En 1982, la Constitution canadienne a été rapatriée après la défaite du oui au référendum de 1980. Et cette Constitution-là a fait perdre des pouvoirs au Québec, notamment sur le plan de la culture et de la langue. La loi 101, qui avait été établie dans les années 70, a perdu beaucoup de ses dents suite à cette Constitution canadienne. Puis... Suite à cela, les libéraux ont pris le pouvoir quelques années plus tard. Robert Bourassa est de retour et il a tenté avec le nouveau premier ministre canadien Brian Mulroney de trouver un accord pour que le Québec puisse au moins approuver la Constitution qui avait été approuvée sans elle à la dernière minute, pour obtenir un peu plus d'autonomie par rapport à ce qui a été conclu dans cet accord-là. Puis, avec les accords du Lac-Meech, ça a passé par référendum, mais dans les autres provinces canadiennes. Puis, les autres provinces canadiennes étaient contre les accords qu'ils ont trouvés pour que le Québec ait une certaine autonomie dans le Canada de plus, parce qu'ils trouvaient qu'il en exigeait trop. Puis le Québec, eux, ben, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils en exigeaient pas assez. Suite à ça, Robert Bourassa, il a probablement prononcé un des plus grands discours de sa carrière, affirmant hors de tout doute que le Québec était une société distincte capable de s'autodéterminer. Puis, à partir de là, on voit le lien entre les libéraux et le Parti québécois. Puis, il y a aussi beaucoup d'acteurs entre les partis qui ont fini par émerger. Juste René Lévesque, par exemple, qui a beaucoup... militer au sein du Parti libéral pour la nationalisation de l'hydroélectricité, il avait aussi voulu proposer la souveraineté association. Idée qui a été refusée et qui lui a fait claquer la porte au Parti libéral pour créer le Parti québécois. Mais il y a eu d'autres acteurs comme ça, où il y a eu des échanges d'allégeances, mais qui finissent quand même par solidifier les projets de l'autre. Mettons le développement de la baie James... juste créer d'autres institutions comme la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça, c'est le Parti québécois qui avait fait ça, mais ça suit quand même la ligne de ce que les libéraux avaient déjà commencé à construire dans les années 60, dans l'institutionnalisation du Québec moderne.
Donc la question, c'est est-ce qu'il y en a un qui suit l'autre? C'est ça. Donc, ultimement... Bon, normalement, c'est des opposés. C'est surtout qu'ils s'alternent au pouvoir. Hein. Une fois PLQ, une fois PQ, une fois PLQ, etc. Il y a des, comme mentionné avec la charte de la langue française, Bourassa a dit qu'il allait, c'était Camille Lorrain qui l'a mis en place avec le PQ. Bourassa allait potentiellement disait potentiellement qu'il allait abroger complètement tout le projet. Quand on arrive au pouvoir, on enlève la charte. Il l'a pas fait. C'est vrai que le PLQ gardait encore cet aspect assez un petit peu identitaire québécois, même dans les années 80 ou 70. Mais moins aujourd'hui, je dirais. Vu qu'il y a tout de même la vision de la société multiculturaliste, allophone, anglophone, que le PQ a toujours pas de souci. Hein. PSPP, en passant à la Montréal Gazette, si je me souviens, il y a à peine une semaine, il disait que défendons les anglophones, les allophones. Enfin, il n'y a pas de souci dans un Québec souverain. En tout cas, c'est leur vision. Sur les gros piliers de l'État, je pense qu'ils peuvent se suivre. Hydro-Québec, l'éducation publique, la santé, en général, ils sont un peu pareils. La différence, c'est qu'ils vont ajouter à leur sauce. Peut-être que le PQ, y aura plus de fonds publics. Le PLQ, peut-être qu'ils vont couper un peu plus. Mais ultimement, il n'y a pas un grand changement de quel est le rôle de l'éducation publique, quelle est la différence avec... la manière dont Hydro-Québec devrait être géré d'un parti ou de l'autre, c'est un peu pareil. C'est juste, c'est plus question d'argent. Alors maintenant, aujourd'hui, je pense un peu, c'était plus le cas dans les années 2000 peut-être, mais moi aujourd'hui, vu que le PQ est tout de même un peu plus identitaire et le PLQ est tout de même un peu plus socialement et même économiquement peut-être de gauche qu'avant, donc la différence est un petit peu creusée sur les poids où il pouvait y avoir une certaine entente. C'est ça, c'est les deux sont des partis progressistes aussi. Par contre, la vision du progrès est différente pour les autres. Le PQ, c'est plus de la social-démocratie danoise ou européenne, alors que le PLQ aujourd'hui est un petit peu plus axé sur... je le trouve assez similaire au Parti démocrate américain sur certains aspects, un peu de nouvelle gauche aussi. Voilà, c'est ça.
Parfait, merci beaucoup. Et je voulais peut-être insister un peu plus sur un aspect rapidement. C'est sur, on en a peut-être pas assez parlé, mais sur le PLQ, une affiliation qu'on a. C'est un peu un soupçon que les gens lui donnent, et c'est un peu comme QS. On le soupçonne d'être un petit peu woke, en fait, d'une certaine manière, d'être beaucoup attaché aux minorités en général, enfin aux droits spécifiques des minorités, et un petit peu dans l'esprit du multiculturalisme canadien. Peut-être que je le dis un peu grossièrement, mais c'est pas ce que je dis moi, mais c'est les accusations qui sont souvent données à son encontre du PLQ. Et je pense notamment à l'opposition du PLQ à la loi 21 en 2019, donc qui est la loi sur la laïcité, où le PLQ, qui je crois avait pris une position quand même plutôt ouverte pendant la crise des accommodements raisonnables. Peut-être auriez-vous beaucoup plus de choses à dire là-dessus
ou... ici on voit un peu ce qui distingue les deux partis. Depuis post-Bourassa, notamment. Le Parti libéral, c'est un parti qui est plus individualiste. Ils vont promouvoir les droits qui sont individuels, parfois avant des causes qui sont plus sociétales. Par exemple, par rapport à la loi 101, l'idée, c'était de permettre aux enfants d'étudier et d'aller à l'école dans la langue de leur choix. Mais par exemple, l'anglais, ici. Par rapport à la loi 21, c'est la liberté de culte, de pouvoir travailler avec ses signes religieux, de pas avoir l'État qui t'entête à te priver de ce droit-là, alors que le Parti québécois, il est davantage dans un air collectif par rapport à la question religieuse. On parle de laïcité, on parle de protection de la langue française. Les libéraux, eux, sont moins là-dedans.
Je suis absolument d'accord. Et ça marche bien avec ce que j'ai dit auparavant, c'est que la gauche ancienne, on en a déjà parlé, je pense, il y a quelques épisodes, la gauche traditionnelle, moi ce que je considérais aussi un peu comme la vraie gauche, c'est que c'est une gauche qui est assez républicaine, unitaire, nationale. C'est une gauche où tout le monde est uni, il y a un projet national, il y a un projet commun, clairement ancré dans du social, un projet. C'est comme ça que la France a été bâtie quand c'était la République face à la monarchie, c'était comme ça. Et le Parti libéral québécois, c'est vraiment une vision d'un conservatisme. Mais ça tombe un peu dans le conservatisme anglais, justement, ce que je voulais dire. Mais c'est que c'est plus la gauche individualiste. c'est que assez proche de la gauche anglaise, assez proche de la gauche américaine, assez proche de la nouvelle gauche, c'est qu'en effet, c'est plus de l'individualisme. Donc tu peux être trans, tu peux être gay, tu peux être une minorité, tu peux avoir des pronoms, il n'y a pas de souci. Ce qui les différencie avec des partis qui sont plus progressistes que le Parti libéral québécois, c'est que ces partis plus progressistes que le PLQ, eux, imposeraient beaucoup de ces choses à tout le monde. Ils imposeraient, ils feraient des workshops, ils imposeraient des cours d'écriture inclusive, etc. Pour information, en France, c'est interdit depuis des années dans la fonction publique, l'écriture inclusive. Ici, ça l'est un peu moins tabou. Alors que le PQ, c'est... Tu peux être une minorité, il n'y a pas de souci. Tu peux être gay, tu peux être trans et tout ça. Mais c'est un projet national. Donc, si la majorité n'est pas en faveur, ou alors si tu ne peux pas imposer trop ton idéologie sur les autres. C'est un peu une idéologie d'État. Hein. C'est ça aussi un peu la vieille gauche. C'est vraiment... Le PLQ, c'est plus une gauche individuelle. Et le PQ, c'est plus une gauche communautaire. C'est la communauté, c'est l'ensemble, c'est le travail... d'un point A à un point Z, ou avoir une vraie vision de ce que l'État doit être, et on doit aller dans cette direction-là. Et ça, c'est beaucoup ce que la vieille gauche fait, parce que c'est beaucoup une question d'étatisme, hein, c'est ça. C'est une grande différence qu'il y a avec le conservatisme ou le libéral-conservatisme. C'est ça. Donc, oui. Et donc, ta question d'origine, c'est est-ce qu'ils sont woke ?
Ouais, enfin, grossièrement, quoi.
Ça dépend. Moi, je mets une différence entre le wokisme et le progressisme. Le wokisme, pour moi, c'est le progressisme un peu plus poussé. Des fois, même au détriment, où c'est tellement idéologique, ça peut être au détriment des autres. Est-ce que c'est en partie woke ? Peut-être qu'il y a quelques tendances qui peuvent être woke. Il faudrait demander à beaucoup de ces personnes qui les critiquent de woke. Moi, personnellement, je ne les ai jamais trop critiqués de woke. Je les ai plus dit que c'est des progressistes, hein, c'est un parti progressiste. C'est juste un progressisme de nouvelle vague, un petit peu comme Québec solidaire, un peu similaire.
Un peu parti démocrate, on va dire.
Voilà, c'est ça exactement. C'est pas dans du radicalisme absolu non plus. Et je pense qu'ils ne peuvent pas trop tomber dans ce radicalisme absolu non plus, parce que je pense qu'ils perdraient tout de même... un peu de leur voix, même à Montréal. Je pense qu'une certaine élite montréalaise qui est un peu centriste ou centre-gauche, qui n'est pas prêt à voter la CAQ parce que c'est juste trop québécois, je pense qu'une bonne partie de leur électorat du PLQ, c'est ça, ils n'ont pas trop envie de le perdre s'ils étaient trop, trop, trop radicalement progressistes. Donc c'est ça.
Ok, donc le PLQ a quand même un électorat, enfin, qui ne lui est pas acquis, mais un électorat qui lui reste accessible, tout comme il lui a été accessible pendant de nombreuses années, surtout qu'il a été élu plusieurs fois, mais c'est un électorat qui lui reste accessible, on va dire.
Alors, l'électorat actuel, c'est ça l'avantage du PLQ, c'est que les Anglos sont prêts à voter pour eux coûte que coûte. Le problème maintenant, c'est les Québécois, les francophones, pardon. Mais les francophones, est-ce qu'ils sont prêts à voter pour eux ? Le problème, c'est quoi ? C'est que, alors maintenant, c'est moins le cas actuellement, mais avant, tu avais QS versus PLQ à l'île de Montréal. Alors ça, c'est le combat des deux parties de gauche et ça est en train de diviser le vote de la gauche dans un même endroit par deux. Et maintenant, le QS s'écroule et le PLQ, maintenant, a une assise absolue sur Montréal. Mais le problème, c'est les régions. Actuellement, c'est quoi le seul député du PLQ qui est... C'est en Outaouais, si je me souviens, justement. C'est en Outaouais. Et c'est le seul... il faut vérifier. Mais normalement, c'est ça, au PLQ, avoir le vote des régions, c'est assez compliqué. Québec, c'est mort. Il y a peut-être 2-3 circonscriptions en région, peut-être dans le Grand Nord, peut-être. Ou alors, ils votent plus Québec solidaire, je ne suis plus trop sûr. Ou alors, c'est NPD, je fais un mélange. Mais c'est qu'en région, il y a un vrai problème, alors que tout est concentré sur l'île de Montréal. Donc, ils ont un bloc. Quoi qu'il se passe, ils feront toujours au moins... 20 ou 15%, je pense, dans toutes les élections. Parce qu'il y aura toujours un gros bloc d'anglo à Montréal qui sont prêts à voter pour eux, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis dans le parti. Le problème, c'est ensuite dépasser 25%. Parce que là, franchement, pour dépasser 25-30%, Ouais, il faut aller en région, il faut prendre du vote des régions, et là, ça va être un peu compliqué, je pense, pour eux.
Bah, surtout avec le système majoritaire, naturellement, ce qui fait que...
Ouais, mais c'est aussi juste... c'est juste les convictions. On habite tous en région. On est tous à Sherbrooke. Des fois, on va à Quaticook. Des fois, on peut aller à North Atlee. Des fois, on peut aller à Drummond, etc. Franchement, à part quelques personnes qui sont peut-être plus âgées... C'est compliqué de prendre du vote libéral parce que beaucoup en région sont un peu plus identitaires. Alors pas complètement, ça dépend. Hein. North Atlee, c'est pas de Magog, c'est pas d'identitaire, c'est des libéraux libéraux. Mais parce que ce sont des personnes qui sont vieilles et qui sont bien loties et qui ont beaucoup d'argent et qui ont bien vécu du système partiellement construit par le Parti libéral. C'est ça. Mais en région, pour les trois quarts des régions. Et c'est tout de même au moins, je dirais, 60% de toute la population du Québec ou 50% de toute la population du Québec, les régions. C'est déjà toucher sur être plus multiculturaliste que sous Jean Charest. Franchement, ça les aide pas à avoir le vote de beaucoup de Québécois. C'est ça. S'ils revenaient peut-être plus dans une ligne plus centriste, plus Québ, peut-être avec Milliard, peut-être que ça aurait aidé pour avoir quelques votes de région. Après, oui. Ce sont des hypothèses. Hein, c'est...
Tu voulais ajouter de quoi, Simon ?
Oh non, pas pour le moment.
Pas de souci. Bah, si cela vous va, je propose de finir l'émission sur ces belles paroles. Mais merci beaucoup pour votre intervention fort intéressante qui m'a moi-même appris beaucoup de choses sur le PLQ, sur lequel j'aimerais beaucoup en apprendre davantage. Et bref, nous allons nous retrouver probablement la semaine prochaine pour un sujet que nous allons déterminer par nous-mêmes bientôt. Bref, merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre audition et je vous souhaite un excellent après-midi.